fort, tu vas entendre ça original, j'en ai jamais entendu parler autrement. Mais en fait, il y a un pote qui a un appart dans Lausanne, qui, selon quoi, comment, il est assez haut dans la ville. Mm-hmm. Et donc, en fait, de son appart, il a une baie vitrée comme ça, et de son appart, en fait, de plusieurs endroits dans la ville, tu pourrais avoir une vue dans son appartement. Et il imaginait faire une pièce de théâtre.
De plusieurs endroits dans la ville, on pourrait avoir une vue dans son appartement.
Exactement, il y a des immeubles desquels tu pourrais avoir une vue sur l'appartement, tu vois, ou des maisons, des parcs, ou des choses comme ça. Et il a pensé à faire une pièce de théâtre immersive. En gros, t'es à plein d'endroits différents dans la ville, et il y a tout le monde qui a des jumelles, ou en fonction de si t'es assez proche, t'as pas forcément besoin de jumelles, et t'as des
Mais tu dis aux gens quand même.
Tu dis aux gens, genre, tu vas regarder.
Ou alors tu fais genre de fenêtre sur cour. C'est ce de Hitchcock là où.
Bah, c'est un peu le, ça s'approche à ça. Et puis en fait, c'est le truc, c'est de dire, voilà, tu dois être à tel emplacement, ça c'est la place que t'as réservée, voilà les jumelles, voilà le micro, que tu vas entendre ce qui se passe, et c'est une pièce de théâtre où tu regardes en fait une.
Ça c'est génial, et sur le chimie, quoi.
C'est une super idée. C'est moi, j'ai trouvé ça une idée, elle est folle.
Mais ça veut dire que c'est réservé à certaines personnes qui ont seulement des vues en surplomb, en fait.
Mais là, après, la logistique, elle est folle, hein, derrière. Moi, je l'ai dit, franchement, ça va être le plus dur. Mais si tu le fais, c'est disruptif. Il n'y a personne qui a jamais pensé à faire un truc pareil, tu vois. Et tu imagines la scène, tu pourrais faire plein de trucs, scène de ménage, ou un moment, enfin, tu pourrais faire vraiment un truc hyper immersif, un meurtre. Tu peux faire des trucs de fou, tu vois, ça peut être.
Mais c'est ce côté authentique, en fait. Ouais. En fait, c'est vraiment là où il y a des gens qui habitent. Et il fait une pièce de théâtre qui est un peu du fake, mais dans du vrai. Là, c'est la même chose. C'est un peu une conversation qui est réel avec on va dire des conneries, on va bafouiller, on va pas savoir ce qu'on dit, il va y avoir des silences et tout, et ça c'est vrai, et franchement ça marche, les gens aiment bien ça.
L'expérience que t'as eu de ces enregistrements que t'as fait par le passé, est-ce que t'as eu l'impression que ça dénaturait la conversation que t'avais avec les personnes?
Pas du tout,
pas loin du monde.
Pas du tout.
Tu trouves pas que ça oriente un peu sur le fait de
les gens font plus attention à ce qu'ils disent?
C'est vrai,
mais c'est à dire que ça distille un peu la qualité de ce que les gens vont dire. Moi, j'ai pas l'impression que ça gêne. Je veux dire, peut-être oui, un peu. J'ai fait un podcast avec Amici. Et à un moment, j'ai dit, je sais plus pourquoi on parlait des nazis. Puis j'ai dit,
le point de vue, t'as atteint le.
Ouais, forcément. Et puis je lui ai dit, genre, en vrai, c'est fou quand même tous ces gens qui disent, moi, je serais résistant. Moi, je serais clairement un colonel nazi, tu sais.
Et c'est une grosse question, ça dépend.
Et Amici, il m'a dit, genre, ça, faut couper, mec. Hein. Ouais. Je peux pas dire ça. Je suis genre, si, en fait. Ouais, t'as une conversation avec ton pote, tu vas dire un truc comme ça. Ça veut pas dire que forcément tu penses, c'est peut-être juste une boutade, c'est peut-être juste une connerie. Mais tu le dis, et tu vas pas commencer à censurer, à ajouter des images, des musiques derrière. C'est genre, voilà,
c'est beau, c'est propre.
Après, là, sur la question, on va y revenir parce que ça m'intéresse ton point de vue là-dessus. Mais avant, pourquoi tu t'engages pas en politique?
Externalité positive pour moi, qu'est-ce que j'en retire, si ce n'est des côtés de réseau. Ce serait très arrogant de ma part de dire que j'ai tout, c'est pas le vrai du
non,
tout
t'as un bon réseau.
Mais j'ai un réseau tout à fait correct, et en fait ce réseau là pour l'instant n'est pas utile, parce que je suis pas dans une quête de pouvoir, en fait, parce que la politique c'est vraiment s'orienter sur pousser sur des idées qui dépassent vraiment ta sphère privée, on va dire. C'est vraiment t'impacte les autres, c'est vraiment dans une orientation
Il y a pas un truc où t'as l'impression que ton identité morale ou ta manière de prendre des décisions sur des sujets qui t'impactent pas que toi aurait peut-être une influence positive sur le monde?
Certainement, mais j'ai toujours eu l'ambition depuis toujours d'être dans la politique, mais j'ai toujours eu un certain plan de comment je voulais arriver à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est stratégique ce que je suis en train de faire. Parce que si tu te pointes aujourd'hui, je pense que tu fais des photocopies, je pense que t'es le petit valet d'un gars qui est en place.
Ou alors t'es le plus jeune élu de telle partie dans tel canton.
Ça, c'est pas ma, tu vois, c'est là où mon objectif, il est pas là. Mon objectif, c'est pas d'être le premier, le plus jeune, le plus si, le plus
ça. Avec la sagesse.
J'ai envie de venir justement avec une expérience, un bagage, une autorité technique qui fait, non, les gars, ça,
c'est. Pas d'être le gars qui, en fait, s'est engagé depuis le début et qui a changé d'avis depuis 15 fois, mais
qui comprend pas, en fait. En fait, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est vraiment cette autorité technique de dire, j'ai pas les rouages, je connais pas assez bien les jeux politiques, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je subis plein de trucs politiques, donc je comprends un peu légèrement comment ça se passe, avec qui faut être pote, pourquoi, mais j'ai de la peine encore à vraiment saisir l'aspect vraiment psychologique de qu'il y a derrière. Comment est-ce que j'anticipe le fait que ce gars-là, je sais qu'il va me le mettre à l'envers, mais comment est-ce que je l'amène au fait où il pense qu'il me l'a mis à l'envers, mais j'ai 3 coups d'avance et une partie d'échec, en fait. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai pas ça. Aujourd'hui, je me fais encore surprendre sur des trucs, je suis là. Vraiment, tu me l'as bien dans la suite. C'était quoi l'objectif? What's the point? Et c'est ça qui me manque. C'est que j'arrive pas à anticiper le truc où je me dis, mais il a jamais de la vie.
T'as pas envie de rentrer dans la politique avec de la naïveté?
Voilà, c'est ça. C'est un peu ce côté candide où je me dis, c'est pour moi aujourd'hui, j'ai plus à perdre qu'à gagner. En fait, je fais toujours un peu le pour et les contre. Ouais, stratégiquement, aujourd'hui, je gagne rien. Si ce n'est qu'on va on va peut-être encore plus jalouser, parce que si ça se passe comme tu dis, imaginons, qu'est-ce que j'y gagne? Je gagne juste plus d'ennemis. Quelques gens qui disent, ah, cool, ok, il a l'air sympa, ce jeune, il a l'air d'avoir des idées intéressantes. Ou alors, quel enfoiré, il a pris ma place. Et il est jeune. Et il est peut-être plus malin que moi, et il a peut-être plus de pognon que moi à terme, et si, et ça, j'ai rien à gagner avec ça. Je veux pas d'ennemis, moi je veux que des amis, c'est pour ça que la politique, c'est quand tu réagissais sur LinkedIn ou tu faisais que ça, je dis, moi j'ai pas besoin d'ennemis, j'en ai déjà assez et pour ce que toi tu fais, c'est très légitime, c'est juste, mais en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est pas du tout mon objectif, c'est vraiment, je suis très orienté sur d'autres aspects.
Ouais, t'as envie de gravir les échelons par ton autorité technique? Et pas par une rhétorique morale qui pourrait t'amener des places en politique.
Et en fait, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup à apporter en plus de ce qu'il y a déjà. Vraiment, sincèrement.
T'as l'impression que t'as déjà un parti qui représente tes idées ou une personne ou qu'en gros tout va suffisamment bien pour que t'aies pas besoin de t'engager dans je sais pas quoi. T'es pas en train de stresser que par exemple la terre va brûler et du coup c'est mieux si quand même il y a quelqu'un qui est vert.
La terre va brûler, mais tant mieux.
C'est encore une autre discussion.
Ouais, tant mieux qu'elle brûle finalement. Moi, je pense que.
Comment ça?
Hard times create.
Ah ouais,
Strongman, c'est une boucle qui est sans fin, mec. Je pense que c'est juste le résultat de ces... Tu sais, je suis très stoïque, hein, dernièrement. C'est cynique, peut-être, mais je sais pas, je pense qu'il y a une forme d'équilibre universel, vraiment, dans tout ce qu'on fait. Il y a rien qui arrive totalement par hasard. Il y a certaines choses qui sont un peu...
Mais t'as quand même un libre arbitre ou pas?
Ah oui, mais ton libre arbitre, c'est ce qui impacte justement les externalités qui vont avoir lieu, tu vois. Ton libre arbitre, c'est ce qui fait que progressivement cette histoire, elle se modèle.
Éviter une catastrophe ou on peut pas éviter, elle est inévitable le cycle de la vie.
Bien sûr, elle est inévitable. Mais elle est évitable si les gens, tu vois, je suis convaincu que quand elle aura commencé vraiment à brûler, parce que là on commence à se rendre compte que ça devient chaud progressivement. Mais quand vraiment il y a des gens qui pourront palper la gravité de la situation et qui ont le pouvoir de faire changer les choses, bah là ça va changer très vite. Et je pense que l'humain, il a des capacités qu'on ignore encore et qui vont vraiment du jour au lendemain faire un switch complet.
Tu ne te sens pas porter une responsabilité là-dedans, dans ce combat-là. Par exemple, après ça j'ai sorti l'environnement mais il y en a plein d'autres.
Je pense qu'on a tous une responsabilité, mais je pense qu'elle s'oriente vraiment sur les choix du quotidien que tu peux faire, là où tu peux avoir un impact.
Niveau individuel.
Ouais, niveau individuel, mais je pense qu'il y a aussi une côté de tu vois, c'est un peu bullshit tout le côté économique qu'on accroche à. Aujourd'hui, c'est vraiment du greenwashing, c'est très orienté sur je suis en train de vendre un produit écologique. Parfait. Alors qu'en réalité,
C'est un très bon sujet. Greenwashing, ça veut dire quoi?
Greenwashing, c'est toute la dimension commercial et que le marketing que tu peux accrocher à toute une campagne
la propagande.
En gros, pour moi, c'est de la propagande. Le greenwashing, c'est de la propagande.
Donc c'est péjoratif.
En réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans cette optique. Il y a énormément de
grosses structures. Dans le sens où leurs intentions sont pas pures. C'est-à-dire, le but de l'entreprise qui te vend la nouvelle éolienne, je sais pas, ou genre BP qui te vend en fait un moteur plus vert, etc. Tu penses que leur intention est pas pure? Maintenant, le résultat, c'est quoi?
Je pense que c'est très lié à l'image, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu vois,
100%.
Il y a des tendances vraiment en termes de marketing. Tu vois la tendance sociale, si tu fais une analyse pestel,
déjà c'est bottom up, cette tendance là.
Mais bien sûr, parce que
le marché, c'est bottom up.
Exactement. Une pression parce qu'ils sont en train de cibler des gens qui dans 10 ans vont être leurs clients, tu vois. Et donc comment est-ce qu'ils fédélisent aujourd'hui des gens qui aujourd'hui les pointent du doigt en disant que vous êtes
maintenant,
les
pires? Pourquoi est-ce que c'est négatif? Pourquoi est-ce que c'est péjoratif?
Parce que la démarche derrière, si tu regardes la réalité derrière, c'est purement orienté sur le profit.
Et
le profit, aujourd'hui, je pense que malheureusement, il n'y aura pas de révolution verte sans billet vert. Tant qu'on n'a pas...
Tu as trouvé sur un cendrier, ce slogan. C'est quoi ce slogan?
C'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas, si on ne comprend pas les enjeux économiques qu'il y a derrière, tu vois, nous, on fonctionne aujourd'hui sur de la dette, on fonctionne aujourd'hui sur tout un système économique qui est basé sur une croissance continue.
Ouais, mais attends, moi je veux bien qu'on est là, mais d'abord, greenwashing, c'est péjoratif dans ta bouche. Et dans la bouche de la plupart des gens, le terme est péjoratif. Pourquoi? Pourquoi c'est négatif? Tu m'as dit, parce que le but derrière, c'est de faire du profit. Et alors? Pourquoi est-ce que ça, c'est péjoratif? Pourquoi est-ce que c'est négatif, cette volonté derrière de faire du profit?
Tu l'as dit, c'est sur la pureté des intentions.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, de la pureté des intentions? Je veux dire, toi, ton objectif, là, c'est de suivre ton propre intérêt.
mais tout
dans, dans ton parcours. Mais
est-ce que c'est pas la nature humaine de faire
exact.
Ça?
Exact. Ouais. Et le bijou du libéralisme, en tout cas selon Smith, c'est chacun suit son intérêt égoïste, propre, et ça, ça amène la richesse pour tout le monde.
Ok, mais donc
pourquoi est-ce que là, c'est pas la même chose? Et je finis juste la question. Vas-y. Pourquoi est-ce que ces entreprises qui promeuvent le greenwashing, qui disent on va s'adapter en fait à la demande et on va donner des trucs plus verts, on va donner, je sais pas,
ce qui donne réellement des
gars. Ben, dans les faits, oui. Ils proposent des moteurs qui produisent moins de carbone. Ils proposent des gammes.
Soi-disant, ils avaient des moteurs
qui étaient meilleurs. Mais là, c'est un cheat. Mais c'est pas pour autant que tous les greenwashers sont malhonnêtes.
Est-ce que tu remarques pas quand même une tendance de se dire, OK, non, mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive.
Mais le fait que les gens trichent, c'est pas fini. Et ça va toujours arriver. La démarche même de dire, voilà, moi perso, je suis patron d'une grande entreprise, je n'ai rien à foutre de l'écologie. Mais bon, puisque les clients veulent ça, ben je vais faire, je sais pas, la gamme au soja de tel steak. Je vais faire des steaks. Qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Si le résultat est que, ben les gens ont accès à des produits beaucoup plus,
je te rejoins,
beaucoup plus écologiques. Et donc en fait, les intentions derrière. Qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Mais je pense que là où on se déconnecte dans cette discussion, c'est que d'une certaine manière, quand tu parles de d'égoïsme pur, en fait, nous on est temporellement limité. C'est-à-dire que dans, allez, soit 50 ans, toi et moi, on n'est plus là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'espoir de pouvoir. Nouvelle génération. Mais c'est pas, eux ne vont pas vivre vraiment la catastrophe humaine qu'on est en train de créer depuis 70 ans. Allez, 100 et quelques années. Tu suis mon raisonnement, c'est que.
Non, j'ai pas le lien avec le
truc. Purement individuellement et égoïstement parlant, nous, on va pas vivre les grosses catastrophes de cette transition écologique. Et c'est là où, égoïstement, est-ce que tu mets le côté humain qui te dépasse, qui est vraiment qui va bien au-delà de toi, ta petite personne, au-dessus de tes intérêts, toi, où je vais m'enrichir aujourd'hui parce que c'est plus rentable de fabriquer en Chine ou de fabriquer à tel endroit.
Mais c'est pas la même discussion.
Ben si, parce que vraiment c'est lié, c'est totalement lié. Parce que greenwashing, c'est en gros, ok, dans 10 ans où je serai encore à la tête de cette entreprise, je perds des clients si aujourd'hui je suis pas dans cette dimension
en train de dire oui, quel est le résultat. T'as les deux éthiques. T'as l'éthique utilitariste, genre Bentham, etc. du 18e siècle. Genre voilà, bah c'est ce qui compte, c'est les résultats. Et t'as l'éthique Kant, ce qui compte, c'est l'intention. Pourquoi est-ce que là on calcule pas le résultat qui est que finalement les gens mangent moins de viande? Les voitures polluent de moins en moins, les avions polluent de moins en moins, les gens consomment de plus en plus bio, de plus en plus.
Bien sûr.
Parce que c'est donné par des gens qui ont certes pas des intentions super pures d'écologistes, mais qui finalement font le taf, c'est-à-dire de satisfaire la demande de la masse qui devient de plus en plus écologique. Pourquoi est-ce qu'on reproche à ces entreprises qui finalement s'adaptent au marché? On va dire, mais j'en ai rien à foutre, moi je reste diesel 100%, etc. Ils disent, bon, ok, on va faire des voitures plus écologiques. Pourquoi est-ce qu'on leur tape dessus alors qu'ils font en fait ce que demandent les gens?
Ouais, mais parce que, alors, ok, je comprends.
C'est ça ma question.
Moi, je comprends ton point. Mais pourquoi est-ce qu'on leur... Je vais te répondre, ça n'engage que moi, c'est à titre personnel, je trouve que c'est dommage de pas faire l'exercice complètement. Parce qu'il est un peu en surface. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une économie circulaire. Tu vois, il faut une démarche de dire, ok, on va faire un peu plus vert, mais derrière, il faut encore
de l'emballage.
Est-ce que les gens sont pas prêts ou est-ce que eux ça leur coûte trop cher de faire
eux ils s'adaptent à la demande.
Oui, mais
qui c'est qui choisit finalement? Si les gens étaient prêts à mettre 150 balles pour avoir des tomates suisses bio faites dans leur truc, bah ils proposeraient des tomates suisses bio faites dans leur truc.
C'est pour ça que je te parlais, il y aura pas de révolution verte sans billet vert. C'est pourquoi est-ce que je paye plus cher du bio et qui est un produit qui est suisse que 10 fois moins cher un produit qui me vient du Brésil et qui est pas bio?
Pour la même raison que tu payes 10 fois moins cher ton attel qui est fait là que celui que tu... Ton attel qui est devant moi, qui est fait en Chine, que celui qui serait fait en Suisse par des gens surpayés.
Donc, économiquement, on n'est pas encore dans le terme global, on n'est pas encore dans une approche qui est sincèrement en train de se dire, OK, comment on trouve les vraies solutions à ça? Aujourd'hui, on se donne...
Mais c'est quoi les vraies solutions?
Les vraies solutions, c'est vraiment s'orienter sur l'économie circulaire. C'est vraiment... Il n'y a aucun déchet. C'est vraiment...
On récupère, mais ça aussi, c'est un bon exemple. Okay. Économie circulaire.
Ouais.
Il y a toute une gamme de nouveaux entrepreneurs, notamment à Genève, un pote à mon frère d'ailleurs que j'aimerais bien voir une fois sur ce podcast, qui a développé une montre, ID Genève s'appelle, qui est 100% recyclée.
Ouais.
Genre c'est du de l'acier recyclé, c'est du liège recyclé, qui je sais pas où il va chercher ça, c'est incroyable, c'est génial, ça coûte super cher, c'est des montres de luxe,
bien sûr.
Mais c'est le truc du futur, il a gagné je sais pas combien de prix, génial. Pourquoi est-ce que lui, on vient pas lui dire... Ouais mec, tout ce que tu veux c'est faire du fric avec tes nouvelles montres, tu surfes sur la vague du greenwashing. Qu'est-ce qu'on en sait en fait? On en sait rien.
Peut-être que son but c'est du greenwashing, mais j'en sais rien.
Moi je suis pas dans la tête des gens. Pourquoi est-ce que ce serait plus du greenwashing chez lui?
Est-ce qu'il a vécu ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus lui dire tu veux faire du fric?
Je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a des gens qui disent ils surfent sur. Et à part ça, ma question au fond, c'est exact. Ma question au fond, c'est qu'est-ce qu'on a à foutre? Il fait le taf que des gens n'ont pas fait avant. Et c'est la même chose pour l'économie circulaire.
Ça me dérange quand Total vient se faire ce discours.
Pourquoi?
Et j'ai des potes qui bossent chez Total.
Exact.
Ça très bien.
Exact. Et pourquoi? Et alors, donc ça devient des mauvaises personnes parce qu'ils bossent chez Total? J'ai un autre pote. Le gars, il refuse de bosser dans le privé. Dans le privé. Pas juste genre telle entreprise, genre Coca-Cola ou le privé. Pour te dire jusqu'où le raisonnement mène, parce que les gens qui sont dans le privé veulent juste se faire du fric.
Bah, et... traduit, hein, écoute, franchement.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est le même raisonnement que tu proposes, juste élargi à pas seulement.
Non, c'est pas la
même. C'est le même truc, c'est genre,
va chercher. Analogie, là, tu fais une analogie.
Je suis désolé, elle est excessive, évidemment, pour faire mon point, mais elle est quand même, elle a quand même le mérite de montrer que c'est genre, en fait, tu évalues les intentions des gens. Les intentions des gens dans le privé, pour lui, et toi, les intentions des gens chez Total. Mais en fait, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu préfères que Total se soit conduit par des types qui n'ont rien à foutre de l'écologie et qui vont juste brûler du gaz, ou alors d'avoir deux, trois types, comme sûrement tes potes, plus que leur patron de 60 piges, qui disent bah écoute, peut-être c'est le moment de faire une campagne où on montre qu'on se responsabilise, que blablabla. Pourquoi est-ce que
les campagnes, moi je crois pas aux campagnes de sensibilisation, mais, moi je crois aux choses concrètes. Aux
mais concrètement, ils changent. Quand ils font une campagne où ils disent on a un moteur qui fait bon, il y a le nouveau Boeing qui va sortir là, 787 et qui consomme 25% de moins de kérosène, juste parce qu'ils ont un meilleur design.
C'est très bien, ouais.
Mais pourquoi c'est très bien? Pourquoi c'est pas Boeing qui fait du greenwashing de merde?
Mais est-ce que là c'est du greenwashing? Quand je parle de greenwashing,
comment est-ce qu'on sait?
Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre ce qui est communiqué et comment c'est communiqué. C'est ça que j'appelle du greenwashing. Ok, concrètement, on a apporté une solution concrète à un problème ou à un besoin.
C'est bien, dans un domaine de marché, la communication, c'est hyper important. Si les types
aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'image que dans les faits. En fait, et tu regardes ça en politique, tu vois
selon quelles jauges?
Selon des jauges qui sont très parlantes. C'est juste factuellement, on est beaucoup plus dans l'image et dans le paraître. Et ça, c'est un ressenti. J'ai pas les maths, là. Je peux pas te sortir une statistique qui dit on est plus dans le paraître que dans le concret. Mais profondément, je peux te sortir un exemple. Macron a été élu parce qu'il a été vu, je sais plus combien de pourcents en plus que tous ses concurrents à l'époque. C'est pas qu'il avait un meilleur programme, mais du coup, c'est qu'il avait une meilleure stratégie marketing.
Oui.
Et aujourd'hui,
c'est
inquiétant. C'est inquiétant.
Pourquoi c'est inquiétant?
Parce que t'as une vraie sensibilisation qui est faite des jeunes qui sont conscients qu'il y a des vraies problématiques. J'ai un discours, c'est drôle, mais j'ai un discours qui est très comme si j'étais militant en fait. Et en réalité, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement d'aller crier dans la rue parce que j'ai vu des militants justement. J'ai vu une manif d'étudiants à Florence. La place avant qu'ils débarquent, elle était clean. Quand je suis revenu 2 heures après, il y avait des coca, des mégots par terre, des sacs McDo, enfin la totale. Donc, mais eux aussi sont dans une démarche de greenwashing où ils viennent protester, ils viennent instagrammer le moment en disant ouais, super, on est acteurs.
Sauf que concrètement, ils font pire que le type de Total qui lance la nouvelle gamme.
Et ben, pour moi, j'ai fait un jugement de valeur.
Ça existe.
Ouais, j'ai...
Si,
ben non,
désolé,
ben non,
en disant greenwashing, c'est un jugement de valeur.
Ben non, parce que l'un et l'autre sont dans le greenwashing.
Oui, mais, oui, mais
dans la communication. Aujourd'hui, j'émets pas un jugement de valeur.
Qui est pire?
Est-ce qu'il y en a un qui va embûcher?
Mais tous sont nuls.
On est tous nuls. Mais moi, le premier, en fait. Moi, c'est pour ça que je me dis, on est tous dans cette démarche de dire, ouais, mais c'est bon, je fais ma part. Mais bullshit, mec, j'achète aussi.
Ok, alors quel est le téléphone qui... Quel est l'objectif de ce jugement moral généralisé à toute la société, en fait, que tout le monde est nul et tout le monde dit plus que ce qu'il fait.
Voilà.
Et c'est quoi le jugement?
C'est plus ça mon point, en fait. Quand je dis greenwashing, je pense qu'on est tous dans une société d'image et il faut l'accepter. Faut être OK avec le fait. Ce qui me perturbe, c'est de croire qu'on l'est pas, tu vois, de tenir des grands discours, mais après, tu prends l'avion pour aller en vacances un week-end avec tes potes. J'ai trop de potes qui me tiennent des gros discours sur l'écologie et puis dès que ça les arrange. Et ça, c'est là où moi, en fait, je suis moins moralisateur en disant, tu fais pas ci, tu fais pas ça.
Okay,
moi,
mais je te sens pas comme moralisateur. C'est pour ça que ça m'étonne que tu utilises greenwashing.
Je suis là, genre.
Même vrai, ça, c'est moralisateur pour les patrons, quoi.
Ouais, mais c'est comment je le traduisais de, et peut-être que j'avais pas mentionné justement ce fait que j'attribue ce terme greenwashing aussi aux petits jeunes qui se sentent super engagés, qui ont posté deux photos sur Instagram, soit dit en passant, for the record, streamer, c'est 10 fois plus polluant que n'importe quel autre voyage en avion. Ou ce que tu veux. C'est une des causes principales de l'impact climatique aujourd'hui, le streaming.
Ok, je le crois volontiers parce qu'il y a des immenses banques de.
Et les gens négligent complètement ça. Ouais. Ils passent leur journée sur Netflix et sur Facebook et ils sont là en train de te faire des grandes théories et puis ils publient sur Insta et ils sont sur tous ces outils.
Ok.
Puis après, ils disent à toi que toi tu fais pas
mal. Ce qui compte, c'est les actes.
Mais tu sais, ça me fait penser à. T'as entendu parler de la série The Good Place?
Non.
The Good Place, c'est hyper intéressant.
Parfait.
C'est
une référence par épisode, c'est fait.
Ouais.
Vas-y, vends là.
À part ça.
Vas-y.
Ça, c'est aussi, genre, tu vois, le point Godwin, comme on disait avant. Je pense que bientôt, on aura le point Netflix.
Ah ouais, c'est une série.
Je pense qu'il y a deux personnes qui parlent au bout d'un moment.
Il y a pas si longtemps, c'était le point Bible. Ah, ça me paraît penser à Job 2:24, tu sais.
Super bien. Non, mais je pense vraiment, on va arriver à un truc comme ça. Ou en tout cas, cinématographique. Tu vois, tout ce qui est de l'ordre du 7e art, je pense que bientôt ça va devenir une ref en mode Godwin, on parle de ça maintenant. Ouais. Bref, et je voulais dire quoi, Good Place, c'est une série qui a été faite par Netflix justement, et en gros, c'est des gens qui arrivent, ils pensent être au paradis, mais en fait ils sont en enfer. Et en fait, d'un fil en aiguille, tu comprends que dans la série, depuis les années, je crois que c'est les années 1910 ou 1900 tout court, bref, il n'y a plus personne qui a réussi à aller au paradis. En fait, il y a tout le monde qui est bloqué en enfer parce que la séquence de choix où t'es même pas conscient que tu fais ces choix, ça t'impacte négativement et donc tu fais le mal et donc selon la Bible, t'es le démon et tu vas en enfer. Et je trouve hyper parce que eux, ils amènent le truc hyper comique, tu vois, ils font trop de... c'est une série archi marrante parce que surtout il y a un gars qui s'appelle Michael et c'est le gars, enfin il fait Dieu mais en fait c'est le diable, enfin bref, il est archi drôle cette série parce qu'il m'amène vraiment, et puis regarde là, elle est vraiment hyper drôle et justement ça c'est très parlant, c'est exactement ça, c'est là quand je dis greenwashing, c'est qu'en fait on va tous en enfer dans cette logique si on suit un peu
ce cas, on va tous en enfer toujours pour tout.
Ah oui, mais là on a
en chrétien, en fait
t'as plus le choix de faire le mal, c'est ça qui est triste, en fait c'est qu'on est dans un système qui est tellement t'as plus le choix de faire le mal, il y a forcément manger un chocolat où il y a un enfant en Afrique qui a été limite fouetté pour te tirer des fèves de cacao.
C'est une sombre vision du monde, à part ça.
Non, est-ce que c'est sombre?
Ça veut dire qu'en gros, t'as pas le choix.
Franchement,
est-ce que t'as pas mal, quand t'es un mal dans une phrase, c'est plus factuel. Donc t'as pas le choix de faire le mal, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que... Ok, explique-moi, vas-y.
Mais
pourquoi est-ce que le fait que j'achète un chocolat, ça fait que je fais le mal?
Bah, parce que justement tu sponsorises dans un système économique où il y a un enfant à l'autre bout du monde qui
est
exploité pour
faire du caca. Ok, il est exploité pourquoi?
Parce qu'il y a des multinationales qui vont là-bas parce que c'est moins cher
de faire ces multinationales en échange de son travail.
Bah, certainement qu'elle le rémunère, certainement qu'elle lui donne, mais
cette rémunération ça mène à quoi?
Ah, j'aime pas quand
tu sais très bien où je veux en venir.
Mais oui, je sais, mais c'est pour ça que je te connais et ça m'embête quand tu tires la discussion comme ça.
Tu sais très bien où je veux en venir depuis 100 ans.
C'est pas dérangeant.
Ces multinationales horribles qui d'ailleurs exploitaient avant nos grands-parents à 8 ans, je veux dire, c'est pas...
Mais ça te dérange pas?
Bien sûr que ça me dérange. Mais c'est trop facile de juste regarder le mauvais côté de la pièce. Le mauvais côté, c'est, oui, ils sont exploités, c'est terrible, un enfant, c'est fait pour jouer. Le bon côté, c'est une génération sacrifiée, ça permet aux suivantes générations d'aller à l'université. On est passé par là, les générations. Nous, moi, je suis immensément reconnaissant à mes arrière-arrière-arrière-grands-parents d'avoir passé par une génération où ils ont galéré. Génération sacrifiée. Combien il y en a eu de générations sacrifiées? Genre, plus ou moins toutes, jusqu'à, genre, peut-être celle de nos arrières, de nos grands-parents, peut-être. C'est peut-être la première, et encore. Ils ont eu la guerre, la misère, etc. Surtout les nôtres, d'Italie et tout. Ma grand-mère, elle me parle encore. Elle a commencé à manger de la viande quand elle avait 15 ans. Enfin, il y a encore ça. Peut-être c'est nos parents. La première génération, vraiment, c'est pas une génération sacrifiée.
Mais dans le fond, t'as raison.
Et pourquoi historique? On n'aurait pas dû faire ça.
Années, ça sera...
Je suis désolé, en Occident, ça a pris combien de générations de types dans les houillères à aller chercher du charbon, à la pioche,
à
15 ans pour que nous on ait cette richesse qu'on a maintenant.
Ouais.
Pourquoi est-ce que les peuples seraient pas libres de faire ce genre de sacrifice, de dire voilà, il y a finalement personne les force à vouloir un niveau de vie meilleur. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais
non, cet enfant qui est employé au Bhoutan, il choisit d'être employé. Il pourrait très bien continuer à bouffer son riz, à crever de faim comme il le fait depuis 1000 ans.
Parce que tu penses pas qu'il y a une meilleure façon de faire?
Sans
pas aujourd'hui avec la connaissance.
Ok. Quelle est la meilleure façon de faire?
Alors, j'ai pas forcément toutes les réponses, mais je pense que déjà le système économique dans lequel on se trouve actuellement, il est profondément erroné. Je pense qu'on se base.
Attends, il permet à cet enfant-là qui, depuis 10 000 ans, on a essayé des autres systèmes économiques, crève la dalle.
Mais j'ai pas le pouvoir. Je te le dis tout de suite.
Moi,
je n'ai pas dans ce podcast, je peux pas apporter
personne
à part A plus B.
T'as pas la réponse au problème du monde.
Non.
Mais mec, tu me sers à quoi?
Pas encore. Mais on va travailler ici.
Non.
En toute franchise, je pense que c'est vraiment de se baser sur un postulat où on est dans une croissance continue. C'est erroné, le monde, il est pas dans cette
croissance. Pourquoi c'est erroné?
Parce que t'es pas dans une croissance, t'es dans un circuit, en fait. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On crée rien de nouveau. On fait juste transiter les énergies ou les ressources
qu'on a. Donc, la consommation des énergies et des ressources en général, qui elles sont limitées, je te rejoins.
Donc là, c'est,
on les rend plus efficaces.
Ben voilà, c'est là. Et là, t'arrives à mon point où la réponse, elle se construit sur comment est-ce qu'on optimise
mais
ce qu'on
a. Mais on rend les choses plus efficaces avec la croissance.
Non, mais la
si croissance. Si on avait dit, quand il y a eu le premier téléphone portable, bon, on est au maximum, on va arrêter la croissance parce que de toute façon, on a ce qu'on peut avoir au maximum.
Mais alors, dans ce cas,
99% des gens n'auraient pas de portable.
Mais tu parles pas d'une croissance matérielle, tu parles d'une croissance immatérielle.
Oui,
toi, tu parles
de la connaissance. Mais l'une vient avec l'autre.
Bah, okay.
Peut-être, après okay. ça, non, après okay. ça, je viens d'avoir une idée. Peut-être, après ça, trop intéressant, si c'était le cas, peut-être qu'on arrivera un jour à un niveau de simulation où il n'y a pas besoin d'une production matérielle pour obtenir une avancée immatérielle.
Voilà.
Parce qu'en fait, c'est le marché qui permet.
Là, je pense qu'il y a une corrélation. Et là, je pense qu'on
est hyper
intéressant. Voilà. L'étude pourrait même être faite. Hein. C'est quoi la corrélation entre l'innovation qui a été faite en fonction de la croissance vraiment purement matérielle sur les outils, mais c'est impossible.
En vrai, c'est juste la meilleure manière qu'on ait eu. C'est genre, voilà, on a fait un produit qui était un peu nul. On en a fait 50 000, on les a vendus aux 50 000 types les plus riches.
Ouais.
Puis les 50 000 là, ils ont fait qu'on avait beaucoup plus d'argent pour faire les prochains millions de Nettel, qu'on a vendu aux millions de personnes, etc. Et à chaque fois, c'est devenu plus performant. Et aujourd'hui, n'importe quel type d'Afrique subsaharienne a un portable, alors qu'il y a 20 ans, ça valait 10 000 balles, tu vois. Ça, c'est pour moi le principal argument contre cette idée de il faut arrêter l'obsolescence programmée, il faut arrêter la croissance. Ouais. C'est, t'arrêtes la croissance, t'arrêtes l'innovation et l'amélioration de l'efficacité de la recherche. Je pense que la simulation.
Ouais, mais ça, cette simulation serait super intéressante.
Genre, t'as des ordinateurs tellement puissants que t'arrives à faire une simulation où tu dis, genre, voilà, qu'est-ce qui se passe si cet objet-là, il fait x 10 millions dans le marché? Un simulateur de marché, un peu.
Ça serait incroyable.
Ça serait fou, hein.
Bon, impossible à coder,
mais c'est ce qu'ils ont essayé en URSS, ça, un moyen de marché.
Ouais, c'est ça.
Ils devaient faire des décisions de prix sur les, genre, 10 000 décisions par jour de combien valaient les choses. T'imagines?
C'est impossible.
Pour l'instant.
L'intelligence artificielle.
Ça serait intéressant, on y arrive.
Ça serait intéressant.
Mais. Il n'y a plus besoin de produire 50 000 conneries pour avoir le meilleur outil, quoi.
Mais c'est pas les 50 000. En fait, moi, ne me dérange pas les 50 000 parce que dans toutes les expériences de innovantes que tu fais, c'est que du blessé-erreur.
Il faut de l'échec.
Mais ça, c'est ça la croissance.
Mais bien sûr. Mais en fait, c'est là où t'as dit quelque chose qui, maintenant, je trouve très parlant et je pense que c'est ça l'erreur qu'on fait. C'est de dire, OK, aujourd'hui, on a une incapacité à traiter le déchet.
Et en fait, c'est l'erreur même profonde qu'on fait, c'est de le considérer comme un déchet.
Tout est décroissante, cette incapacité. La preuve avec ce pote qui fait des montres avec.
Mais c'est à ce type de solution qu'on doit aspirer. Je pense que c'est à ça.
De plus en plus.
Mais en fait, je pense que c'est l'erreur qu'on fait, c'est que notre recherche et développement.
Elle n'est pas focalisée là-dessus.
C'est ça. En fait, je pense qu'une canette comme ça, on devrait. Avant de la créer, on devrait dire, OK, cette canette, on fait ça, ensuite elle revient dans le processus. Et c'est bon.
Mais
c'est là, maintenant, on a le produit parfait, tu vois. Mais, justement, là, il y a beaucoup d'études, franchement,
il faudrait, parce qu'il n'y a pas assez d'incentives, mais tu sais,
qu'on vend des déchets. Enfin, genre, je crois que la Suisse, elle achète des déchets pour les brûler, ou je sais plus, il y avait une histoire comme ça où, genre, on exporte des déchets pour les brûler. Ouais. Enfin, bref, c'est une catastrophe. En gros, tu mets truc dans le, soi-disant, tu fais du tri, mais la moitié, c'est remis dans la même benne, c'est brûlé, et puis c'est juste une catastrophe. J'ai pas les maths,
c'est
pas
les sources. Quand jette une bouteille en verre dans une poubelle normale,
il y a trop d'enquêtes qui ont été faites sur RTS avec ces trucs là-dessus. Là, j'ai vraiment pas la ref. Il faudra vraiment checker tout ça. La communauté ou fact checker tout ça.
Alors, ça, c'est vraiment l'objectif. T'as toqué?
Non, je crois que c'est mal à la tête.
L'objectif, c'est un jour, j'aurai un gars là qui check tout, qui vérifie tout, tu sais. Jorgan, il a ça.
C'est très Jojo. Jojo, grosse controverse.
J'ai vu, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, j'ai
remarqué qu'il y avait deux de suite. Hein.
Ouais, il y a eu celle des sur sa position vis-à-vis des.
Il y a eu le fait qu'il ait interviewé un type qui s'appelle Robert Malone qui est anti-Covid.
Voilà.
Enfin, anti-Covid, tout le monde anti-Covid.
Ouais.
Qui est anti-vaccin, pardon.
Ouais, ouais, ouais.
Et il y a eu ensuite.
Je suis grave pour ce truc, c'est trop bien la maladie.
Après, on pourrait imaginer un type.
Je pense
sûrement Novartis.
Mais c'est sûr, c'est sûr.
Xi Jinping, tu sais.
Voilà,
c'est bon, je peux plus jamais voir en Chine.
C'est over, you're done.
Tu vois, j'ai appris la langue pour rien. Et Xi Jinping, madame. Je viens de traiter de connard, c'est fini, mais.
C'est mort.
Voilà, c'est mort, je suis rayé de la liste. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette controverse? La première, c'est-à-dire celle où il a invité un anti-vax. Et la deuxième, c'est juste, ils ont fait une compilation où il dit nigger, genre, pendant 10 minutes de suite. Et. Et c'est un mot assez chaud.
T'as vu ce que il y a un combattant MMA qui a commenté ce gars, enfin c'est le real, enfin je veux dire le terme, ça peut être mauvais de le dire, mais
non, pour nous ça va encore, on n'est pas encore complètement américanisé, on peut dire, moi j'ai encore des potes qui m'appellent négro, et je les appelle négro, et ils sont blancs, et c'est encore ok, hein. On n'est pas encore
complètement américain. Après, si tu prends le contexte historique, je pense que moi j'ai pas mal de potes avec le basket, tu vois, j'ai trop de renois qui m'ont appelé mon négro, et puis c'était en mode marrant, tu vois.
Mais on n'a pas le même bagage culturel.
Non,
on n'est pas dans un pays esclavagiste. Ou en tout cas. Pas directement.
Ouais, pas officiellement. Mais ça, c'est comme d'hab, on vend l'armement à l'autre bout du monde, mais on ça est pas officiellement.
Même toi, ils sont meilleurs, non? C'est que ça, ouais.
Qu'est-ce qu'on disait sur Joe Rogan?
Ouais, moi, je pense que
il y a des combattants MMA, là, il a commandé that's a real nigga, tu vois. Genre, arrêtez de faire du bullshit et de faire du force autour de lui. Les gars, ce gars, c'est un vrai type. Il a été là quand j'étais pas bien.
Il suffit d'écouter une heure à part ça pour le savoir.
Et c'est ça. Moi, Joe Rogan, j'aimais aucun jugement de valeur sur ce qu'il a pu dire et dans le coup. Parce que, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de petits rats sur Internet, des petits trolls, qui viennent te foutre dans la merde parce qu'une fois t'as dit un truc. Tu vois, typiquement, là, ce qu'on dit aujourd'hui devant des micros, ça se trouve, c'est coupé, remonté, remasterisé, remis dans un contexte complètement différent. Et puis, on te fait dire un truc rien à voir. T'as jamais dit des choses comme ça dans cette. Parce que quand tu mets à la suite tous les trucs mauvais que t'as dit dans ta vie,
tu dis juste je serai un colonel nazi.
Ouais, et tu t'enchaînes.
Imagine, à chaque fois que t'as parlé, il y avait un micro, et à chaque fois, mec, on met l'enchaînement de toutes les salasseries que t'as pu dire dans ta vie.
Franchement, c'est.
Tu mets une pinch?
T'es vite foutu. Bah ouais.
T'as plus du coup après.
Voilà, je suis bientôt à ça.
J'arrive.
Je passerai ça sous silence.
Ah, donc ça, tu passes sous silence, mais quand moi je parle de. Mathilde, il m'a embourbé, je suis désolé, hein. Il m'a embourbé dans son histoire, là, je suis désolé. J'aimerais bien faire la conversation, mais faut.
Avec grand plaisir, vraiment.
Profitera de. Merci, Kéra.
Merci, Mathilde.
Non, merci, j'alcoolise.
J'alcoolise. Plus de conneries qu'un chat. Non, donc la première controverse, donc ça c'est sur la deuxième. Oui, ouais. C'est clairement des trolls qui charrient.
Mais ça, je
la première sur le Covid.
C'est celle-là qui a engagé. Quel point de vue sur ce que lui, il a invité quelqu'un qui n'avait pas le même avis que.
Alors qu'il a masse d'auditeurs que genre toutes les plus grandes chaînes d'infos combinées. Quoi.
Qui a raison en fait. La vraie question au fond, c'est qu'est-ce que toi, t'as l'info suprême, tu vois, comme si t'avais un œil suprême qui voit tout et qui comprend tout et qui sait tout. Moi aujourd'hui, ça se trouve, il a raison en fait. Tu vois, mon point de vue, c'est de dire, ok, bah, ça se trouve, en fait, le gars qui l'a invité, ou c'est comme, comment il s'appelait déjà, Raoul, là, en France, où tout le monde l'a craché dessus parce qu'il propose un truc qui, fondamentalement, avait l'air de marcher.
Trump, quand tu parlais du virus chinois,
tu vois. Moi, aujourd'hui, et Trump, on pourrait en parler aussi, c'est un débat à part entière. Enfin, bref, il y a trop de gens qui crachent dessus, il a créé aucune guerre. Enfin, c'est limite un des meilleurs présidents des derniers.
En tout cas, point de vue politique extérieur, il a quand même fait se serrer la main les deux présidents coréens, quoi.
Mais,
depuis 700 ans, ça
n'a jamais été. Je sais pas, moi, j'ai pas envie de jeter la pierre à qui que ce soit. Je pense que chacun est fait, on revient à ce truc de très égoïste et très nature humaine, quoi. Finalement, tu fais ce que tu considères être juste, tu vois.
Donc, tu considères qu'il a pas une responsabilité?
Non, je pense qu'aujourd'hui, je reviens à le truc de l'image.
Ouais.
Parce que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans l'image, t'as plus le droit, en fait, de dire je suis pas d'accord. Aujourd'hui, tu dis que t'es pas d'accord avec l'opinion de masse, bah, tout de suite, on te catalogue comme étant, t'es complotiste, en fait. Ben non, en fait, hein. En réalité, je pose juste une bonne question, c'est une question socratique, c'est et qu'est-ce qui se passe s'il se passe que ça? Et est-ce que réellement c'est comme ça? T'as, dès que tu poses cette question, ah ouais, mais en fait, toi t'es de l'autre côté, en fait. T'es pas des,
un
des
aussi
moutons,
un
t'es pas moi, des moutons qui posent pas de questions.
Oui, dans le sens où tu peux vite tomber aussi dans. Il y a plein de trucs. Ouais. Tu peux vite tomber aussi dans une théorie du complot, beaucoup plus rapidement, parce que peut-être à l'époque, il y avait une personne sur 1000 qui était complotiste.
En fait. Ouais.
Et maintenant, bah, juste qu'une personne sur 1000, tu les mets en réseau sur 1 million de personnes dans Internet.
Ouais.
Il y en a 1 million. Tu vois. Ma question, c'est plus, est-ce que tu trouves que, en tant que gestionnaire d'une plateforme aussi importante que la plateforme de Joe Rogan, qui a genre, je sais pas, 200 millions d'auditeurs, un truc énorme, vraiment énorme. Plus que NBC, Fox News, tout ça. Plus. Ouais, santé. Moi aussi. Est-ce que tu trouves que, du fait qu'il a cette plateforme, il a une responsabilité de dire la vérité, ou en tout cas se conformer au narratif?
Ouais, parce que là, je préfère la deuxième version.
Deuxième version.
Ouais, conforme au narratif.
Parce que la première est impossible.
C'est quoi aujourd'hui dire la vérité? Moi, vraiment, j'ai pas la réponse. Je suis pas médecin. Je peux pas te dire si c'est bien, si c'est mal.
Donc, la réponse pour moi, c'est, pour ce que je comprends, ce que tu dis, c'est plutôt non. Il n'a pas une responsabilité.
Est-ce qu'il a une responsabilité? Deuxième question. Au pluralisme. Parce que quand on lui a fait ce reproche, il a fait une vidéo. Et moi, je trouve ce type, il est vraiment, c'est un type en or.
Ouais.
Il a dit, ouais, ok, c'est vrai. Désolé que ces types, parce qu'il y a deux chanteurs un peu vieux, probablement les plus qui risquaient le plus de choper le Covid, qui ont quitté Spotify. Et il y a eu après ce scandale, où il y a eu de nouveau les articles dans Vice ou je sais pas quel autre journal qui disait ouais, c'est vraiment un nazi et puis il en a rien à foutre de tuer des grands-mères, etc. Et
fatigue ces gens.
Non, et vraiment. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'il a une responsabilité là-dedans? Lui, il a répondu, et c'était fou de dire ça. Quelle modestie de dire, genre, ouais, c'est vrai que c'était pas forcément la vérité, mais en vrai, je fais parler des gens quand j'estime que leur avis vaut la peine d'être dit. Surtout que là, le gars est hyper compétent. C'est un des gars qui a développé le vaccin, c'est un des gars qui sait comment ça fonctionne, qui a, genre, je sais pas combien de doctorats. Enfin, ça se tient de l'écouter. Après, j'avoue que pourquoi pas encourager le pluralisme et quand j'invite un gars comme ça qui est un peu polémique, inviter direct après un autre qui dit le contraire. Ok, la réponse parfaite,
Il
aurait pu double down. Moi, quand j'ai écouté ça, j'étais agent. Double down, gars. Tu dis, genre, j'en ai rien à foutre, allez tout vous faire niquer. Tu dis ce que je veux sur ma plateforme, et si vous n'êtes pas content, vous allez chier. Ouais. Et non, il n'a pas dit tout ça. Il a dit, bien sûr.
Est-ce que tu penses qu'il y a une team derrière qui lui a dit, là, réagit comme ça?
Je pense que si ça marche comme ça, si ça marche pour lui, c'est qu'il n'a pas de team derrière.
Tu penses?
Je pense qu'il a sûrement des postes, comme toi et moi, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Mais il n'a pas, genre, Steve, son assistant en communication, tu sais, peut-être par rapport à tel truc, tu devrais t'adapter. Non, il sait juste ces trucs-là. C'est pour ça que ça marche.
Sincèrement, il est très fort. C'est là où tu vois que c'est pas forcément dans la pièce, c'est jamais entre guillemets le plus malin, si ce n'est peut-être humainement et socialement en fait. Mm-hmm. Il comprend ces choses, tu vois. Il comprend en fait très vite.
C'est un type qui passe du temps avec des gens toute sa vie.
C'est là où il est vif en fait. Il a tout compris. Et pour répondre à ta question, moi, je suis pour ce pluralisme. Je suis pas pour une seule et même façon de voir le monde.
Donc tu trouves qu'il y a une responsabilité d'être pluraliste?
Je pense que tout le monde a une responsabilité d'être pluraliste et d'ouvrir son esprit en disant, je pense que c'est pas que lui. Lui, il a une plateforme. Lui, il a beaucoup un écosystème qui est plus grand que le nôtre, peut-être. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, nous, on a la même responsabilité d'encourager les gens à se poser des questions, d'aller chercher un peu plus loin que ce qu'on veut bien te dire.
Ouais.
Regarde le diagramme en France de qui a le pouvoir de médiatique. C'est le quatrième pouvoir. Enfin, c'est un pouvoir en soi, le pouvoir médiatique. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est pas un hasard. Il y a rien qui
est soit. C'est très pluraliste, le système médiatique mainstream, on va dire.
Mainstream en général. Ouais. Pas du tout. Regarde sur les plateformes. Enfin, genre, RT, là, le truc russe vient d'être boycotté chez tout le monde.
Ouais.
Les Ricains, ça fait des années qu'ils font la guerre partout dans le monde. Et nous, on sponsorise économiquement de nouveau. Le dollar, la plupart des monnaies, elles sont basées sur le dollar. Enfin, bref, économiquement, pour avoir ne serait-ce qu'il y a là-dessus un gros sujet. Mais les Ricains font la guerre partout au nom de quoi? D'un freedom. et on ne dit rien. On est là, ok.
Freedom.
That's great.
I'm not a fucking new freedom out of shit.
Et on a un autre qui après, est-ce que c'était bonne raison? Je suis pas en train de défendre Poutine, mais je suis en train juste de dire, sincèrement, on émet un jugement de valeur parce que on est quand même biaisé dans le narratif qu'on nous donne.
Mm-hmm.
Dans le narratif, on nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et du coup, beaucoup de gens sont là en disant, ça c'est bien, ça c'est mal. Et ils disent à leurs potes, ça c'est bien, ça c'est mal. Et tout le monde le répète. Alors qu'en réalité, je pense que l'histoire, elle est écrite par les gagnants. Et c'est, imagine, il y a des fake news aujourd'hui, imagine ce que c'est nos livres d'histoire. Ça, c'est une phase que j'ai vue dans un même jour et ça m'a fait, wow.
J'avoue.
That's for real, mec. C'est juste un fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'encourage pas assez de challenger, de poser des questions, de dire, mais, t'es vraiment sûr que c'est ça? C'est quoi qui te fait dire ça? Pourquoi tu penses comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu t'es fâché avec un tel qui a dit le contraire? Tu vois, et c'est pas du tout encouragé dans notre façon de faire. Il faut avoir pourquoi un narratif. Tout le monde doit se conformer à ce narratif.
Donc c'est un truc de
l'expression de groupe. Très George Orwell, mais on arrive tous dans une situation où on est tellement connectés que c'est, je pense qu'il y a Orwell, Maslow, dans les besoins d'appartenance à un groupe, tu vois. C'est parce que t'appartiens à ce groupe-là, ou alors t'appartiens au groupe des extrêmes opposés, tu vois, qui disent non, c'est un complot, c'est des lézards qui nous commandent, et tu vois. Et aujourd'hui, je trouve que là où on se perd un peu, c'est qu'il y a les deux extrêmes qui parlent très fort.
qui sont tout de suite d'accord entre eux, ils sont là, ok, ouais, c'est bon, on est dans la même team, cool, et on va baiser les autres. Et je pense qu'il y a tous, pendant, au milieu, dans le spectre, tous les gens du milieu, ils savent pas qu'ils sont dans la même team, tu vois. Et il y a pas ce sentiment d'appartenance. Ben, je pense qu'ils le sont, tu vois, parce que c'est ceux qui sont un peu ambivalents, ils sont un peu, il y a un peu de complot, parce que c'est réel, je pense que ça s'appelle pas les Illuminati, mais c'est réel qu'il y a un deep state, c'est réel qu'il y a plein de trucs où on nous dit pas tout. C'est une évidence. Après, est-ce qu'on a envie d'appeler ça un deep state et que c'est des lézards? Moi, je suis pas à cet extrême-là.
Sauf qu'on devrait tout lui dire, mais là, c'est juste un point de vue.
Non, je pense que les gens, ils ont un esprit. Enfin, je pense que si on savait tout, notre esprit, il aurait pas la capacité. Je pense qu'on éliminerait plein d'informations.
Mais est-ce que tu trouves que c'est la responsabilité du gouvernement de cacher une partie de l'information au peuple?
Je pense que c'est.
Sur la raison d'État, un peu, genre.
Ouais, limite, c'est pas plus mal, franchement.
Vraiment? Genre, par exemple, le masque. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc flagrant où je trouve nos autorités et dans tous les pays ont perdu une crédibilité énorme quand ils ont dit non, en fait, ça sert à rien parce qu'on en avait pas. Puis dès qu'on en a, en fait, faut en mettre tout le temps.
Ouais.
C'est fou. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de dire, bah, écoute, ça sert à quelque chose, ce qui est la vérité, mais on en a pas.
Mais en fait,
désolé, on a foiré, mais en même temps, on vous dit la vérité, tu vois.
Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas une matrice des risques qui a été faite, tu vois. De dire, ok, on est à l'État, notre job, enfin, il y a des types, ils sont payés à faire ça à l'année, tu vois.
Okay, c'est le genre de consultant que Steve et son conseiller à Joe Rogan.
Il se passe quoi, les gars? Non, mais ok, je suis d'accord avec toi. Il y a un peu ce trait, il ne peut pas tout prévoir, mais il y a quand même un moment où tu te dis, ok, quand même, c'est quoi le plan A, c'est quoi le plan B? T'as déjà entendu
parler? Non, mais ça, c'est sur le fond. Moi, je dis sur la forme.
T'as déjà entendu parler de Nassim Nicolas Taleb?
Oui, je crois que c'est toi qui m'avais conseillé.
Super intéressant, le personnage, et il parle de l'antifragile. Et l'antifragile, c'est quoi? C'est, t'es pas résistant, résilient, mais le dernier étape, c'est genre, si je lâche maintenant cette bouteille en verre par terre, et quand le fait que je la lâche et qu'elle tombe, la fois d'après, je pourrais la lâcher encore plus haut et elle se cassera pas, et je peux augmenter à chaque fois elle sera de plus en plus résistante, en fait. Et ça, c'est le concept d'antifragilité. Ah. Et moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on est...
C'est vraiment genre Nietzsche.
Ouais, mais sauf qu'il y a vraiment cette notion de dire, ok, c'est vraiment le fait que tu sois confronté à la difficulté qui va faire que t'es encore plus résistant la fois d'après.
Ouais, ça,
et aujourd'hui, ben, si tu regardes depuis le début de la crise, il y a rien qui nous a rendu plus résistants. On a juste répété des erreurs. On était là, ah oui, c'est ça. Ah non, en fait, c'est ça. On a juste beaucoup plus communiqué que ce que réellement on a apporté des solutions.
Je pense pas que là, on est mieux préparé pour si jamais il y a un nouveau virus demain.
Mais c'est que ça dépend. C'est si le virus il se transmet autrement maintenant, tu fais quoi? Si c'est plus
Non, mais dans ce cas, c'est pas la même erreur qu'on a fait au début qui nous permet d'avoir des informations sur maintenant.
Bah, je crois pas. Est-ce que c'est notre appréhension de la situation qui
la situation,
tu vois, l'appréciation du problème. Tu sais que je vois ça dans mon entreprise. J'applique ce genre
de méthode de conduite
tous les jours.
Oui.
Et les gens ne percutent pas. Et j'ai pas fait l'uni, j'ai rien fait tout ça. Mais dans le pragmatisme, t'es là, les gars, ça fait 4 fois qu'on fait la même erreur. Il y a pas un moment où vous vous rendez compte que le vrai problème, c'est pas juste ce qu'on est problématique là maintenant, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à se mettre autour de la table et parler des vraies problématiques qui sont les vrais soucis. Parce que si tu fais ton appréhension du problème, appréciation de la situation, tu comprends ces choses. Parce que tu vois que, ok, c'est comme ça, mais pourquoi? Ah, mais c'est comme ça, mais pourquoi? Et tu fais ton 5 why, tu remontes après, il y a des mélanges de plein d'autres connaissances, mais.
Sur la responsabilité du gouvernement, tu trouves qu'elle implique aussi de devoir parfois mentir à. Mais ceux qui
est-ce que c'est pas des white lies, tu vois, est-ce qu'on ment pas tous un petit peu à
chaque fois? Tu réponds pas à ma question.
Mais je fais
ma question, non, c'est est-ce que tu trouves que justifié que Berset, je sais pas si lui il l'a dit, je suis pas sûr, mais je sais qu'il y a en tout cas une ministre française.
Moi je sais même pas.
C'est volontaire. Alors hypothétique, je parle pas du vaccin, on parle d'une autre situation hypothétique où il y a un conseiller du président qui va chez le président qui dit voilà, monsieur, il y a cette information là qu'on peut soit divulguer au peuple et il y a un risque de chaos, parce que c'est ça la raison en général, soit on leur dit pas et ce sera probablement en plus une paix sociale et on pourra s'adapter plus tard à cette situation. Est-ce que tu trouves que le gouvernement, qui est quand même notre employé, a un devoir de vérité avec ses citoyens, ou au contraire il a un devoir, c'est-à-dire de vérité, c'est-à-dire de savoir, de dire tout ce qu'il sait? Il peut pas la vérité avec un V majuscule, non, mais dire tout ce qu'il sait et laisser les gens en fait responsables se démerder avec cette vérité.
C'est une question, ça dépend de quel angle tu l'attaques, parce que s'il y a le côté vraiment, est-ce que tu veux éviter le chaos, non, tu dis pas tout, mais après, est-ce que le côté aspirationnel du truc, où tu te dis, c'est notre employé, il est censé nous dire toutes les choses, parce que c'est, on le paye avec nos impôts, il est censé nous protéger, donc on est censé savoir ça.
Protéger, c'est pas forcément dire la vérité.
Mais c'est là où, enfin, tu vois, ça dépend de quel angle tu l'attaques, parce que pour moi, me protéger, c'est juger les informations qui me permettent de faire une appréhension du problème et une appréciation de la situation, où je me défends.
Je considère que tes citoyens, c'est des adultes. Tu ne vas pas les protéger en leur donnant pas toutes les informations. Voilà. Tu risques juste de perdre ta crédibilité.
Ouais, exact.
Ou pas. Et bah, ou est-ce qu'on a bien fait, ou est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on aurait vu?
C'est tellement du cas par cas. Ouais, enfin, franchement, il y a du,
là
c'est,
on est là pour dire du bullshit théorique.
dans la théorie, le côté très aspirationnel, ça serait non, ça devrait être 100% transparent.
En même temps. C'est 100% transparent, mais malgré le fait que, ils nous ont pas tout dit à l'époque du Covid sur les masques, etc., qu'il y avait tel risque.
Mais je sais pas,
mec, t'as vu les mouvements où il y avait genre plus rien dans les rayons, alors que la pandémie avait même pas encore commencé, les types qui faisaient qui stressaient et qui achetaient je sais pas combien de kilos de pâtes. D'ailleurs, je me réjouis de voir tous les kilos de cornettes qu'il y a chez tout le monde qui bouffe des trucs au beurre depuis un an parce qu'ils savent pas quoi foutre avec tout ce qu'ils ont acheté en trop. Mais
je sais pas, mais je pense que c'est une question qui est trop vaste pour, parce que on parle de quoi? Est-ce qu'on parle des finances de l'État? Est-ce qu'on parle de ce qui peut mettre ta santé en péril? Est-ce qu'on parle de, est-ce qu'ils sont, tu vois?
Bah, tout concerne.
Tout concerne. Donc,
c'est final, tout quelque chose que t'as délégué à quelqu'un. Surtout, ouais. Moi, j'ai la même chose avec des clients, tu sais. J'ai un client, j'en ai déjà parlé hier. J'ai un client qui a perdu son fils dans un accident. Et, j'ai le dossier. Chez moi.
Ouais.
Avec les photos. Genre, vraiment trash. Et, je lui ai pas dit la vérité. Okay. Je lui ai pas dit que j'avais le dossier. Je lui ai dit que je l'avais pas encore reçu et que je voulais qu'il se fasse suivre par quelqu'un pour éventuellement prendre la décision de récupérer le dossier ou pas.
Okay.
Et franchement, je suis pas sûr que je sois légitime d'avoir menti.
Mm.
Ou voire même de juste garder ce dossier, tu vois. Genre, pourquoi est-ce qu'il y a cet intermédiaire, moi, gamin de 20 ans, qui doit décider si ce type de 50 a le droit ou pas d'avoir accès à cette information?
Et
c'est hyper paternaliste, en fait.
Ouais, mais qu'est-ce qui a fait que t'as pris cette décision en ce moment-là?
Parce que je pense que c'était mieux pour lui.
Ouais.
Mais est-ce que je suis légitime à penser que quelque chose est mieux pour quelqu'un ou pas?
Mais est-ce que c'est pas ton paradigme qui t'a amené à croire que c'était mieux pour lui?
Oui,
à ce moment-là, à l'instant
T, ça peut être que ça.
À l'instant T, c'est toi, de ton vécu, de tes expériences, tu t'es dit à ce moment-là, c'était comme ça que je devais agir.
Oui.
Parce que c'était en paix avec toi-même. Mmh. Parce que si tu lui donnais, peut-être que toi, tu serais allé te coucher le soir.
Mais du coup, c'est hyper égoïste, parce que finalement, je suis censé être juste à toi. Il fait ce qu'il veut, tu vois.
Non, on revient à ce qu'on disait. Enfin, c'est la boucle est bouclée. On dit,
ouais, mais il y a quand même
des égoïstes. Parce que tu le fais plus pour toi que tu le fais pour lui.
On prend plein de décisions pour Nino aujourd'hui. On lui demande pas son avis. On lui donne à manger, on le change, on le torche, on fait tout ça.
C'est la nature humaine.
Et puis tu fais ça après, quand tu continues à le faire, quand il est ado, puis après, il y a un moment où ça devient un adulte et il te dit genre, mec, maintenant t'arrêtes, je me démerde, cool. Et t'as plus besoin de prendre des décisions pour moi parce que je sais mieux que toi ce qui est mon bien.
Bon, tu vois, mon père à 14 ans, il a fait ce choix, hein. À 14 ans, il savait ce qu'il faisait, il est parti de la maison à 15, je crois, un truc comme ça, et à 16,
il n'acceptait pas qu'on pense mieux savoir que lui-même ce qui était bien pour lui. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça avec le gouvernement?
Parce que c'est beaucoup plus simple. Tu te décharges d'une charge qui est monstrueuse. Ce que l'État fait pour toi, t'es incapable de le faire seul. C'est pour ça qu'on a créé l'État.
En fait, tu délègues la compétence.
Mais oui, parce que d'une certaine manière, t'es incapable de faire tout ça tout seul. Comment on s'organise pour créer une route? Bétonner, pas bétonner, tout ce que tu veux.
Et donc, tu dis, en déléguant la compétence, tu délègues aussi nécessairement une part de l'accès à l'information.
Ouais. Et indirectement, tu l'acceptes. Parce que tu l'acceptes
tacitement.
En fait, tacitement, tu te dis, bon, c'est peut-être pas tout.
J'ai donné à la task force le pouvoir de décider pour la Suisse. Je vais pas commencer à remettre en question tout le temps.
C'est ça.
Ouais.
Et beaucoup de gens le font, mais enfin, ok, tu sais quoi, tu veux gérer, vas-y. Bon, et la plupart des gens, si tu leur donnais maintenant le gros bébé, tu dis, vas-y, tu sais quoi, on te regarde. Vas-y. Par des gens qui se plaignent, qui disent
c'est clair.
C'est chier dessus. Mais tu sais que dans le gouvernement, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas au courant à quel point c'est mal géré parce qu'ils n'ont aucune idée. Parce que c'est des gens comme toi et moi qui arrivent devant le fait accompli qui sont là, oh,
fuck.
Et qui se disent, bon, on va pas trop en parler.
Ouais.
Finances publiques, ils font un petit mouvement comptable et puis ça, on n'en parlera jamais. Mais il y a plein de trucs comme ça. Je suis convaincu qu'il y a plein de catastrophes comme ça qui ont été juste camouflées.
C'est le jeu de déléguer
du direct là-dessus. Pourquoi? Et là, on revient à un truc fondamental dans notre culture qui me dérange beaucoup. C'est accepter, on fait des erreurs. L'erreur est humaine. C'est humain de faire des erreurs. C'est pas grave, en fait. C'est pas grave de dire que l'erreur, c'est de faire croire, et t'es dans l'image, de dire, on sait tout.
c'est nous les élus. Continue à voter pour nous. On sait, t'inquiète, on gère. Tiens, moi, et en fait, c'est ça, c'est là où tu te rends compte que même nous, on a un biais cognitif qui est trop fort, qui, si le gars, il nous donne pas cette impression qu'il gère, on va dire, lui, il a l'air de gérer, lui, il est plus fort, il est plus mal alpha, il est plus,
il a l'impression
de, je vais voter pour lui, toi, vas-y, casse-toi. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est injuste, c'est parce qu'en fait, on les encourage pas à dire, franchement, les frérots, on n'a aucune idée.
Je
pense, je suis sûr que tu t'en rappelles très bien. Où on était premier jour d'engagement à Genève, après deux semaines à Bière, et il y a eu une sorte de faillie mutinerie.
Tu te rappelles
de cette ambiance
je m'en souviens.
Où genre, t'as 200 soldats devant toi, et tu vas leur dire, genre, les gars, on a une caserne qui est en fait que à moitié pour nous, et on sait pas ce qu'on va devoir faire, on sait pas demain où on va devoir aller en engagement, ça va pas être facile, blablabla. Bla, bla. Et je sais pas ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est dire, les gars, on est dans la même merde que vous, et on n'a aucune idée de comment on va s'en sortir.
Ouais.
Et je pense que c'est ça.
Moi, je me souviens surtout.
Et là, je parle de nous deux.
Mais je me souviens, je me suis fait remonter les bretelles pour l'avoir fait aussi.
Toi et moi, on a dit, les gars, faites-nous confiance, parce que nous-mêmes, on sait pas vraiment dans quelle merde on est, mais au moins, on vous dit la vérité, et on va essayer de faire le mieux, et on a besoin de votre aide. Et pas du tout le côté genre, fermez vos gueules, c'est comme ça, qui aurait peut-être été développé par d'autres membres de la hiérarchie.
on ne le citera pas.
Mais qui aurait fait... Non, c'était pas du tout comme ça. C'est genre, voilà, on sait pas, c'est nouveau pour nous aussi. Aidez-nous. Et ça ira bien. À mon avis, c'est le fait qu'on ait dit ça qui a évité, franchement, ce qui aurait pu être peut-être pas une mutinerie, mais en tout cas, une bien sale ambiance pendant un petit moment.
Franchement, c'était
explosif avec Jacques Etienne en plus qui se baladait en disant à tout le monde genre
c'est n'importe quoi,
vous trouvez que c'est un peu n'importe quoi, non, c'est genre le gars qui a le plus gradé de la caserne et qui
c'est ça, c'est drôle parce que c'est vrai que c'est le plus gradé de la caserne
pendant tout le long, c'était le plus gradé, le gars c'est genre un nanar.
C'est là où tu te rends compte quand même que humainement tu donnes une telle responsabilité à des jeunes qui ont le plus vieux, c'était lui aussi hein, je pense quand on avait des gars le max c'est quoi 30 d'années tu vois,
très belle Jabba.
mais je sais pas, je trouve ça quand même, on a quand même une responsabilité assez folle. Après on n'a pas été Rambo style
la gestion franchement la gestion de cette crise c'était pas rien.
Et ça c'est une des grandes un grand truc que je sors de ça comme mémoire personnelle, c'est qu'en fait c'est, je pense que c'est l'honnêteté avec laquelle on a apporté le truc à ce moment-là qui a débloqué cette situation. Mm-hmm. Parce qu'il y avait justement ce jeu d'image de dire ouais on gère, de toute façon c'est comme
vous
ça.
Vous inquiétez pas, on aura tout sur. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'ils font pas la même chose au niveau supérieur justement de dire t'as déjà entendu un politicien qui dit je sais pas. Franchement, je sais pas, les gars. Je suis entouré par les plus grands spécialistes, mais même eux, ils savent pas. C'est un agent inconnu, mais au moins, faites-moi confiance, je vous dis la vérité.
Mais je pense qu'ils le
font.
Mais en fait, ce qui me dérange,
c'est beau.
Tu vois, la communication aujourd'hui, sont devant 15 journalistes qui sont entraînés à te poser des questions sur lesquelles ils vont te piéger ou ils vont te mettre dans la merde, tu vois.
Mais moi, je pense que c'est un politicien.
En fait, non, moi, j'aimerais changer le truc, faire un live stream.
Ouais!
Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un live stream, les gens ils commentent, tu vois. T'es l'objectif, les gars.
Un des objectifs,
je sais pas. On fait une task force. Boum. Mettez-vous, genre, dans les coms et venez, on crée des bulles de conversation où vous avez des idées. Tu sais, en fait, ça fait un moment que je pense à un truc. Tu sais, sur Twitch, sur plein de plateformes. Il y a ce truc, ok, il y a un déroulé de conversation. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je me dis, sur certaines thématiques, typiquement dans la politique ou dans d'autres sujets, tu sais, tu parles d'un truc, ça fait émerger des idées, t'as des commentaires et en fait, que les gens puissent créer des poules de conversation. Tu vois, par exemple, un gars qui est à l'autre bout du monde et d'un coup, tu dis, il y a une idée, t'es en train de parler d'une idée, boum, et tu crées un pool de gens que tu connais pas, mais t'es en train de réfléchir à l'idée. Et tu dis, ok, bah, vous avez pensé à ça.
Bon, Reddit, quoi.
Reddit, ça marche comme ça?
Ouais.
Ok,
n'importe quel sujet, t'as genre toutes les conversations possibles et imaginables avec des types qui sont. Et puis après, t'as une sélection un peu darwinienne. Okay. Les meilleurs commentaires sont mis en haut.
Ouais.
Et donc, t'as une discussion un peu d'élite. Enfin, c'est
dingue.
C'est super. En fait, Internet, il y a tout, mec.
J'arrive pas à.
Toi, j'ai déjà été.
Non, pas tout.
Pas tout.
Je te le dis. Après, je te pitch deux, trois trucs, mais.
Mais c'est pas, moi j'aime bien cette honnêteté et je t'avoue qu'un des objectifs dans mes rêves les plus fous de ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est une fois de pouvoir parler avec un politicien, un type qui a un pouvoir d'influence ou de décision sur les autres, et de voir en fait ce qu'il y a derrière. Parce que je pense que tu peux maintenir un slogan et un peu du paraître pendant peut-être 40 minutes.
Ouais.
Mais pas beaucoup plus.
Ouais.
Au bout d'un moment, si tu creuses un peu et que t'as une conversation.
Un type entraîné,
j'y crois pas. Je pense que tu tiens.
J'ai vu mes propos,
3 heures.
Je te jure.
Ouais, là. Tu tiens 3 heures à juste bullshitter.
Ah, là.
Ok, mais ça se voit.
Oui,
mais tu voilà. Jamais
mais
le
non,
prouver.
Mais c'est bon.
Tu pourras jamais le prouver.
Bien sûr, que tu peux le prouver.
Non,
tout le monde le sait.
Non.
Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a, je pense que les, je pense que les gens, et la preuve, là, je suis peut-être idéaliste.
Sûrement.
Je pense que la preuve que ce genre de conversation longue durée,
mais oublie pas que
ininterrompue,
c'est leur métier.
Sans, oui, mais même,
je
oui,
fais 8
mais,
par jour.
Oui, mais
moi, je fais 8 heures par jour.
Alors, oui, c'est,
je
oui, mais ils sont pas là-dedans.
Ils sont pas là-dedans.
Hein? C'est pas une conversation à deux personnes pendant 3 heures de suite.
Ouais.
C'est pas la même chose.
Okay.
C'est pas genre j'ai une interview avec des journalistes et ça dure 20 minutes puis je dis juste les trucs que je dois dire puis après c'est fini puis après je me suis entraîné pendant ces 20 minutes. Je pense, je suis sûrement naïf. C'est sûrement possible.
C'est pas
mais je pense que les gens sont pas entraînés pour ça. Il y a pas de. Moi, j'ai bon espoir que en 3 heures de conversation à deux avec une personne qui a pas le choix de devoir te répondre aux questions que tu poses, tu perçois si elle est honnête ou pas. Et les gens, je pense, les gens, et je m'inclus là-dedans, tout le monde a un sens de ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Quand tu vois un live show où le type, il a déjà ses lignes qui ont été écrites avant, on sait, tu sais. Tu sais pas comment tu sais, on a un instinct qui fait que tu perçois, ah oui, ça a été écrit avant. C'est évident. Personne n'est un aussi bon, a un aussi bon, une bonne rhétorique pour pouvoir sortir directement des clashs comme ça. Ça marche pas, donc c'est faux.
Ouais.
Et je pense que ça, les gens le perçoivent et que c'est pour ça que ce genre de conversations en long format ont du succès.
Ouais, c'est intéressant.
Ça a du succès parce que les gens perçoivent, ah putain, c'est vrai, c'est authentique, il s'est trompé, il doit aller aux toilettes, il va chercher une bière, il bafouille, il réussit pas à trouver son mot,
mais
il a dit un peu de conneries.
Ça
marche.
Ça, ouais, mais
imagine pendant
3
heures avec Berset.
T'as pas l'impression que ça, justement, ça risque aussi de, vu que c'est pas formaté, entre guillemets, dans l'image de la perfection du truc, où c'est vraiment mixé, masterisé, coupé au bon moment, petit live musical en entre-deux pour pas trop ennuyer, tu vois. Parce que t'as pas peur que tout ça fasse que la niche que tu vas peut-être pouvoir atteindre avec ça, elle est moins grande que celle que tu pourrais atteindre en ayant un truc hyper orienté sur la performance du truc, tu vois.
Non.
C'est vraiment dans l'image, dans
ma réponse,
comment
c'est
structuré.
Non, je pense pas. Et la preuve, c'est JR, c'est Joe Rogan Experience, le gars qui a genre beaucoup plus de auditeurs que toutes les autres plateformes qui font exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la performance,
mais
tout est coupé, tout est
Rogan, c'est pro, hein.
Bien sûr, mais il fait ça. Il fait une conversation. C'est pas coupé. C'est pas édité du tout. Et il fait juste, et il a des types. Il a des candidats à l'élection présidentielle américaine qui viennent parce qu'ils savent qu'ils touchent un électorat avec ça.
Bah ouais.
Et ils savent qu'ils ont, c'est un challenge. Moi, je serais beaucoup plus stressé d'avoir une conversation avec Joe Rogan que d'avoir une conversation avec, je sais pas quel gars de Fox News qui va, de toute façon, recouper après pour que, de toute façon, ça fasse dire ce que tu veux dire.
C'est intéressant. Moi, je pense que c'est le meilleur format. Thinkerview, je sais pas si t'as déjà entendu parler.
Ouais,
mais
je connais,
mais j'aime beaucoup aussi ce qu'ils
font.
C'est
très bien. Ouais.
Très bien. Lui, je le trouve un peu trop.
Il y a une orientation, ouais.
Ouais.
Mais bon, c'est inévitable.
Bah,
c'est aussi,
non,
c'est pas une conversation.
C'est là où Joe Rogan est bien meilleur que la plupart d'entre eux. C'est que Joe Rogan, il est pas dans le jugement, en fait.
100%.
Joe Rogan, il pose des questions où il est un peu dans cette naïveté, un peu.
Juste,
tu vois. Franchement, je vais pas. En fait, ne serait-ce que quand il pose la question, il te dit sincèrement, arrête de bullshit, vas-y, arrête de.
Aussi, il a la force de caractère aussi de couper les gens quand ils commencent à bullshiter. Ça, c'est fort. Il a aussi la carrure de dire genre.
Ouais, c'est marrant. Et c'est, en fait, il le fait d'une manière assez drôle.
Ouais.
Il n'est jamais.
Tu peux pas l'attaquer. Tu peux pas genre te blesser.
Le gars, il va essayer de te tacler. En fait, il va essayer de te mettre une balayette quand t'étais en train d'essayer de coudre et tout.
Exactement.
Alors que John Green, là, on est dans toute sincérité.
Ah, genre,
voilà, t'es en train de nous banave.
Arrête tes conneries.
Arrête tes conneries.
Viens, mais c'est sympa. Genre, tape sur l'épaule. Allez, arrête tes conneries. Dis-moi la vérité.
Cut the crap. J'ai deux fois ton âge, mon fiston. Viens, je vais t'apprendre. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'il est très fort, en fait, dans cette approche archi humaine du truc où il perçoit quand c'est justement bullshit, il t'amène à discuter de manière vraiment tout à fait informelle et très sincère, et ça, c'est fort. Et je pense que c'est ça que les gens apprécient chez lui, et c'est pour ça que les gens l'écoutent, en fait. C'est parce qu'il apporte ce truc hyper naturel. Et en fait, tu le vois comme un type, t'aimerais être à table avec lui.
Ouais,
t'aimerais que tu
aies une conversation avec lui, grave.
T'aimerais que Joe, il démarre comme un
hey, dude,
guys.
T'as l'impression que c'est ton pote.
C'est
ça aussi, c'est genre, il n'a pas que des conversations abstraites sur des sujets politiques, il va parler de ça, puis après, il va regarder une vidéo sur YouTube et être là. T'as vu s'est fait défoncer la gueule, ou je sais pas, où t'as vu cette scène où il y a tel gars, tel comédien qui a.
Un peu actualité.
Ouais, actualité.
Ça,
et puis, à part ça, t'as vu là, d'ailleurs, sans transition, la droite de
Will Smith.
Will Smith.
Ça, j'étais sûr tellement parlé.
Bien sûr, j'en parlais.
J'étais obligé d'en parler, mais je trouve que
je vois un post par jour sur LinkedIn. Non, tu vas pas me sortir ce truc, pitié.
C'est scripté.
Ah ouais, tu crois?
Moi je suis convaincu.
Ah ouais?
C'est scripté, c'est sûr.
T'as vu les années, il y a déjà des centaines d'années sur YouTube qui disent, ouais, tu y vois le timing et tout, de comment.
Je sais pas, mais moi ça me paraît tellement absurde. Et après, tu vois, si je recoupe les informations, et ça, moi je fais souvent ça aussi, c'est que je me base pas que sur une source. Tu vois, il y a plein de gens qui disent il a fait une blague sur la vanne. Will Smith, je pense que c'est pas la vanne parce qu'une seconde avant il se marre. Enfin, tu vois, tu prends un peu toutes les informations et tu regardes aussi les views que les Oscars ils font depuis, je sais pas, 5 ans. Je crois que c'est en chute libre. Et là, cette année, c'était la pire année que tu pouvais imaginer. Je sais pas, moi, je pense qu'il y a vraiment un peu.
Tu penses que c'est faux?
Ah, je pense que c'est scripté quand même. Ça me paraît trop abusé. C'est des acteurs pour en arriver là, pour une petite vanne. L'ego du type.
Non, mais ça se tient. Ouais, bah ouais. Bah, mec, attends, mais s'il y a un gars qui a vraiment un gros ego, c'est Will Smith, tu vois.
Ouais, mais au
genre, States. Le gars, il est acteur, il vient de dire. Enfin, non, il avait pas encore gagné à l'époque un Oscar, mais il est nominé pour un Oscar. Enfin, il y a. Tu penses, c'est pas possible que le gars, il soit dans une réalité qui est juste autre de ces types qui savent pas. Genre, ce que c'est la différence avec la vraie vie, en fait.
Et ce moment-là, et
genre, t'es pas dans un film où tu mets une droite à des gars parce que t'es pas d'accord avec eux. Moi, je pense à ça, tiens. J'ai pas envie de croire que c'est fake.
Mais toi, tu sais peut-être pas. Non. Moi, je sais pas. Moi, j'ai vraiment
l'impression. Je vois pas pourquoi il fait ça. En plus, il humilie, même si c'est fake, il humilie publiquement un type qui est quand même assez stylé, qui est un comédien professionnel. Enfin, je sais pas.
Ouais, j'ai pas peine à comprendre, en fait, ce qui s'est passé là derrière. Et peut-être c'est pas scripté, mais en tout cas, c'est... En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est un peu la réaction de Chris Rock, parce qu'elle a l'air sincère, tu sais.
Ouais.
Waouh, il just smacked the fuck out of me, tu vois. Il était là en mode. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que tu vois un gars qui monte sur la scène, c'est pas le moment où il doit monter, tu viens de faire une blague sur sa femme.
Ouais, mais va peut-être prendre le micro et dire, en vrai, moi, j'aurais trouvé ouf, parce que c'est vrai que sa blague, franchement, elle est nulle. Elle est un peu nulle, sa blague, c'est une blague sur le physique, elle est un peu naze.
Mais justement,
je suis pas sûr qu'il savait qu'elle a une maladie, enfin, sûrement, parce qu'ils se connaissent, en fait. Donc, sûrement, donc il l'a fait. Et en plus, il l'a fait sympa, il l'a fait genre ça, et après, il fait ça va, t'as vu, il l'a dit, hein.
Ouais.
Il monte sur scène, ça pourrait être genre je vais le clasher.
Ouais.
Moi j'aurais trouvé il y a un peu un battle, là, tu sais, genre ça, il monte, il prend le micro, il fait ouais toi ta mère blablabla. Ça aurait été vraiment
ça aurait été la meilleure
mais ouf
dans l'image.
Et du coup, je pense que quand il l'a vu monter, il s'est dit OK, il va vouloir dire quelque chose, fair enough, je lui donne le micro, tu sais.
Mais il a pas fait ça justement.
Non,
tu regardes la réaction de Chris Rock, il ne bouge pas.
Ouais, mais peut-être qu'il pensait qu'il allait se tourner vers l'audience et dire voilà, il s'est passé ça.
Humainement, je trouve que c'est une réaction qui est tout. Tu viens de faire une blague sur son ex-femme, enfin sa femme, son ex-femme.
Un gars,
il
monte.
Et ça, ouais, je crois qu'ils sont encore mariés, mais il y a eu des histoires de
trucs. Ah oui, bref, c'est vrai.
Enfin là, tu vois, on est en train de faire des sujets qui sont légers, mais bref.
Mais c'est ça qu'il faut aussi, que c'est une vraie conversation.
Bah ouais, t'as raison.
En vrai, est-ce que la conversation qu'on est en train d'avoir là
toujours être profond et
aurait été différente s'il y avait un micro? Pas spécialement.
Ouais, peut-être un peu quand même, peut-être un peu. Parce que, tu vois, au début, quand je parlais de mon taf ou des trucs comme ça, c'est des trucs que j'aurais jamais dit devant un micro. c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vraiment, à mon sens, ça n'a rien à faire sur en ligne ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est vraiment dans l'intimité d'un pote à un autre. Et c'est pas dans, en disant, OK, j'ai envie que tout le monde sache ce que je pense de l'architecture de comment politiquement s'est organisé.
C'est aussi la vérité de la vie, tu vois.
Bah ouais, mais tu vois, parfois, cette vérité, on revient à ce que je te disais quand tu commentais sur LinkedIn, des trucs comme ça. Ça amènerait plus de négatif que de positif dans les externalités, qui viendrait dire genre, ah ouais, super, t'as dit les vérités sur là où tu bosses, trop bien.
Genre, probablement 99% des gens qui bossent pas avec toi.
Bah voilà, c'est ça. Et ces gens-là, malheureusement, ils peuvent rien m'apporter, sur le plan,
pour l'instant.
Ils me disent, ouais, bah c'est ça, mais je les connais pas, tu vois. Enfin bref,
il y a tout ça. C'est moins un gars qui viendrait dire genre,
mais on s'écarte.
Bref.
Ouais, grave, tu vois, c'est.
Chris Rock, vas-y.
Chris Rock, je pense que cette scène, elle me dérange un peu sur la réaction, sur tu sais pas trop comment il... Ouais, comment t'aurais réagi à sa place, tu sais pas trop, est-ce que la vanne, elle valait vraiment ça, est-ce qu'après finalement, Zidane qui met un coup de boule à Materazzi, est-ce que c'est pas la même situation, tu vois, c'est genre un truc, what the fuck,
t'es un
professionnel, t'en arrives à là, mec, sur un truc où tu sais que c'est, le gars il est payé pour venir faire des blagues, tu vois, c'est... Ok, c'est peut-être sur ta femme, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc trop extrême, en fait. Ouais. Je trouve que c'est trop extrême pour ce que c'est, et je trouve que c'est un peu scripté. J'avais l'impression que c'était un peu scripté, très franchement.
Ouais, c'est possible. Je sais pas, on saura jamais, comme d'hab. Mais... Et sur la réaction, tu trouves que c'est une réaction légitime
de mettre une claque à quelqu'un pour une blague.
Pour une blague sur ta femme, qui est malade.
Après, tu vois, sur les réseaux, il y en a plein qui disent en mode, ouais, il dit rien quand elle le trompe et il doit mettre une claque à un type qui fait une blague sur elle. C'est un peu pareil, tu vois. C'est bizarre comme réaction.
Cette photo du président ukrainien Zelensky qui a au téléphone et qui est là, ouais, Will Smith, c'est ce que Poutine a dit sur ta femme. J'ai vu cette vidéo. Trop marrant.
ça c'est bah, là tu vois les trolls là ils font rien.
Génial.
Là j'ai trouvé
trop même la culture même
elle est trop forte. Mais d'ailleurs Nanga, moi je suis tu sais que c'est honteux hein. Mais c'est une de mes sources d'information principales. Je suis hyper informé grâce à ça.
De...
Tu sais qu'à l'instant T, il y a un bombardement à Dieu sait où dans le monde, où il y a des trucs qui se passent économiquement, il y a des choses qui se passent politiquement,
condensé, en fait.
De bah, et t'as l'info, et t'en parles autour de toi, ils sont là, ah ouais, sérieux, comment? Bah là, il y a genre une heure.
Twitter, non?
Bah Twitter, moi, c'est pas, moi, je suis vraiment pas dans, ça me plaît pas, le format, en fait.
Mm-hmm.
Moi, je réalise avec le temps, hein, je suis très image, en fait. Je suis très et c'est là aussi ça mes plus grands défauts je pense, parce que c'est là où moi si tu m'amènes de l'image, et c'est on revient au petit collectif dont je te parlais avant, c'est qu'on est une société qui est bercée par ça, et en fait moi ça marche trop bien sur moi. Mmh. C'est pour ça que je l'analyse, je fais un peu une introspection, mmh. Je me dis ça marche sur moi, mais je le sais, du coup j'essaie de faire attention, du coup si, du coup ça, parce que j'essaie tout le temps de réfléchir à ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont exactement comme moi, dès qu'il y a un format de lecture à faire un peu trop long, pff, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Par contre, s'ils sont capables de faire 8 heures de cours de Python avec un Indien qui parle un anglais approximatif, bah, tu vois, c'est là où c'est incroyable. Ouais. Et c'est là où je me dis que c'est la puissance de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que ça peut t'apporter tellement plus. Et les formats audio, par exemple, tu vois, là, tu pourrais être en train de cuisiner et puis écouter cette conversation sans avoir besoin d'être là en train de lire le script de ce qui s'est dit dans un journal à l'époque, tu vois. Et je pense que ça, c'est la beauté de
l'écrit, c'est fini, quoi.
Non, je pense que c'est pas fini, mais je pense que ça va un peu se transformer.